Interview.
1 Terre. L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Olivier Canivet qui vient de créer une association qui s'appelle UMI qui est basée à Vacher-en-Quin. Cette association a été créée le 12-12-12, hein, c'est juste pour l'anecdote. Et donc Olivier Canivet, qui était paysagiste et chargé d'études dans l'environnement et le paysage, a décidé de se lancer dans la valorisation des matières organiques. Bonjour Olivier.
Bonjour Louis.
Tu étais quand même déjà dans l'organique, dans le végétal, mais tu as voulu changer d'orientation. Alors est-ce que tu pourrais un peu nous parler de la genèse de la création d'UMIC ? Pourquoi tu en es arrivé à vouloir valoriser les matières organiques ?
Alors c'est pas du tout un changement. Pour moi, c'est une évolution logique dans mon parcours professionnel et dans mes motivations personnelles. En fait, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en bureau d'études de paysage et d'environnement en tant que paysagiste, où j'ai fait de nombreuses études et de nombreux conseils pour les collectivités sur la gestion, ce qu'on appelle la gestion différenciée des espaces verts, une gestion durable, en fin de compte, sur le paysage en milieu urbain, et pour les particuliers également. Et j'ai voulu un petit peu faire une évolution dans mon métier et je me suis fortement intéressé à l'agronomie. J'ai également suivi une formation en agriculture biologique dans le Diois et c'est comme ça que je suis arrivé d'ailleurs dans le Diois il y a presque 6 ans maintenant. Et j'ai travaillé sur une période assez courte dans une association qui s'appelle Triave Compostage, donc dans le territoire voisin en sud Isère, et qui fait la promotion du compostage. Donc il y a 4 salariés dans cette association et qui met en place finalement une multitude de projets pour les collectivités et les particuliers pour la valorisation de la matière organique. Moi, arrivant dans le Diois, je me suis dit, waouh, c'est un territoire qui bouge beaucoup, il y a énormément de belles choses qui sont mises en place, et c'est un paysage qui est magnifique, un environnement dynamique et extrêmement intéressant. Comment je pourrais aussi participer en tant que particulier et acteur de ce territoire? Et bien voilà, j'ai eu cette petite idée qui a germé après mon passage à Triève Compostage de créer une association. Donc il y a eu une longue maturation d'idées, de projets avant le montage de cette association dans la vallée de Quin en décembre 2012. Et je me suis dit, ben, le moyen de faire le lien entre tout ça, mes compétences et peut-être une envie personnelle et surtout un diagnostic de territoire que j'ai pu mener pendant ces années, visait à démontrer que les petites initiatives de valorisation de la matière organique étaient éparses dans le Diois et parfois manquaient un petit peu de dynamisme. Donc je ne veux pas trop me valoriser par rapport à tout ça, mais en tout cas je voudrais simplement dire que de mon expérience personnelle et professionnelle, j'ai créé UMIC pour véritablement créer une filière de valorisation de la matière organique. Le compostage étant une grande partie de ces activités, l'activité de l'association. Il y a d'autres thématiques qui sont liées, et notamment qui sont liées à l'agroforesterie, la haie et ce qu'on appelle le BRF, hein, le bois raméal fragmenté, qui vise à rendre toujours fertile le sol et de valoriser finalement les bouts de branches, les bois qui ne sont pas utilisables peut-être en bois énergie, bois bûche, etc. Sur l'aspect, bien sûr, du gaspillage de l'alimentaire, aujourd'hui, on est vraiment dans un pays de consommation, de surconsommation, et qui va jusqu'à un grand paradoxe où l'on jette parfois jusqu'à la moitié de ce qui est produit, hein, quand on va du champ jusqu'à l'assiette, avec les nombreux intermédiaires dans la transformation, le transport et le stockage et la grande distribution, il y a un gaspillage alimentaire qui est énorme. Donc voilà, c'est une autre thématique. Il y a bien sûr la phytoépuration, l'assainissement par les plantes des eaux usées, les toilettes sèches ou litière biométrisée. Il y a bien sûr les aspects liés à l'agriculture durable. L'agriculture biologique, bien entendu, en fait partie. Mais il y a d'autres aspects de l'agriculture qui sont abordés. Là, je rappelle que le sol a énormément besoin, pour rester dans sa fertilité, a besoin de matière organique. Et un sol bien nourri, c'est un sol qui permettra aux plantes de bien pousser, de nourrir après chaque humain. Et puis, pour finir, le domaine de la méthanisation, le domaine du jardin, du paysage et d'espaces verts, avec tout ce qui concerne, bien sûr, les déchets verts.
Alors c'est très bien tout ça, mais tu penses bien quand même que rien de ce que tu as proposé comme piste de réflexion n'est fondamentalement révolutionnaire, nous en sommes tous au courant. Quel est le plus qu'UMIC pourrait apporter pour vraiment et justifier son existence et puis trouver sa place parmi tous les acteurs qui font en sorte que cette vallée soit de plus en plus bio ?
Effectivement, il n'y a rien de révolutionnaire. Tout le monde a une notion même du compostage et de la valorisation de la matière organique.
Tout le monde sait qu'on ne devrait pas gaspiller.
Voilà. Mais il n'empêche que dans les actes, on se heurte toujours un petit peu à une prise de conscience individuelle. Mais après, une fois rentré à la maison, on n'est pas toujours très, très vaillant pour mettre en place un changement. Après, pour ceux qui compostent, ceux qui ont déjà l'habitude de composter, il y a des manières aussi d'améliorer la technique de compostage. Et ça c'est un point qui est extrêmement important et intéressant, parce que finalement, pour pas trop rentrer dans la technique et dans les chiffres pendant cette émission, je voudrais tout simplement parler des rizières et des tourbières. Lorsqu'on a une accumulation de matière organique, qu'est-ce qui se passe dans le processus biologique normal? En l'absence d'oxygène, donc lorsqu'on est dans un milieu saturé en eau, ou en absence d'oxygène, qui revient à peu près au même, on a un phénomène de putréfaction, ce qui fait que c'est un phénomène qui dégage énormément de méthane et qui rend cette matière organique inintéressante, inutilisable pour le sol et pour les futurs végétaux qui seraient amenés à pousser. En fait, ce sont des milieux asphyxiants. Et si on pratique un compost, je dirais en tas classique, où on ne fait que jeter et empiler ces matières organiques sans apporter le petit geste, la petite recette que je vous indiquerai par la suite pour faire le compost, on obtient quelque chose qui n'est pas dans le bon sens, je dirais dans la bonne logique de la dégradation de la matière, et surtout on dégage du méthane. Voilà, le méthane, je le rappelle, hein, c'est un gaz à effet de serre qui est nettement plus important que le CO2, hein, qui favorise finalement l'effet de serre sur la planète.
Oui, j'entends bien, Olivier, mais ceci dit, tu n'as pas totalement répondu à ma question, parce que moi, je te posais la question, ok, tout le monde sait cela, en fait, tout le monde peut même aller sur Internet et voir l'excellente bonne recette pour faire un bon compost bien aéré qui ne crée absolument aucun méthane. Moi, je te pose la question de savoir comment vas-tu justifier la création d'une association, parce qu'une fois que tu auras donné ton petit conseil, ta petite recette, ce sera fini. Comment UMIC va-t-elle exister ?
Alors voilà, UMIC intervient en conseil, en appui pour les collectivités, pour les associations, pour les particuliers, les agriculteurs également, sur les techniques de compostage et également sur la mise en place de projets de compostage. Alors il y a un cadre réglementaire qui est maintenant de plus en plus contraignant, qui limite aussi les initiatives des uns et des autres. UMIC permet finalement d'apporter tout ce conseil. Et en pratique, par le biais d'animations, d'ateliers directement sur le terrain avec toutes ces personnes et donc forcément avec ces différents publics, UMIC vise à faire une transmission de savoir-faire, un accompagnement sur tous ces projets. Parce que voilà, le bac à compost, je voudrais aussi le rappeler sans faire de polémique, le bac à compost n'est pas un chapeau magique. Ce n'est pas en mettant tous ces déchets organiques dans le bac à compost que l'on obtiendra un sac de compost. Il n'y a pas un processus de transformation qui est caché dans la boîte. Non, il y a un petit geste, je prendrais un peu en comparaison, lorsque vous voulez faire de la cuisine, il ne suffit pas d'avoir des ingrédients que l'on met dans un saladier et que l'on passe au four pour obtenir un beau gâteau ou un beau plat. Il y a un petit savoir-faire qui se transmet, qui peut tout simplement être vu sur Internet, mais qui se transmet aussi par la pratique.
Et c'est à ce point compliqué ?
Non, c'est absolument pas compliqué. Mais je dirais que c'est comme un taboulé. Si vous voulez réussir un bon taboulé, la graine de couscous, il faut aussi la travailler d'une certaine façon. Et ce sont la succession des ingrédients, les différentes petites étapes, et puis aussi le fait de le garder quelques heures au frigo, voire une nuit au frigo, qui donnera toute la qualité de ce taboulé. Et je pourrais prendre l'exemple, parce que je suis quand même un bon gourmand, je pourrais prendre l'exemple avec d'autres mets de la cuisine. Le compostage, c'est une petite recette toute simple, mais si on ne l'a pas acquise, on fera toujours un mauvais compost. Voilà, c'est simplement de l'observation intégrée par l'expérience et la pratique sur le terrain. C'est pas en allant sur Internet uniquement, et d'ailleurs il peut y avoir aussi une multitude de mauvaises recettes sur Internet, que ce soit dans la cuisine ou dans le compost, ce n'est pas uniquement en allant sur Internet et donc dans la théorie qu'on saura faire un bon compost.
Alors ça c'est le premier volet de l'action du MIC, mais si je ne m'abuse, avant cette interview tu m'as parlé d'autres pistes de travail du MIC, en particulier la mise en relation entre des personnes qui auraient des excédents de matière organique et d'autres qui en auraient besoin.
Voilà, donc je rappelle, hein, UMIC travaille sur différentes techniques et thématiques sur la valorisation de la matière organique. Ce week-end, sur le marché de Die, pour prendre un petit exemple, pour être justement dans l'interface entre l'offre et la demande, en distribuant des petits flyers, j'ai discuté avec une personne qui était prête à proposer de la matière organique, qui pouvait même, au-delà d'aller sur le compostage, d'aller dans le cycle de l'alimentation animale, un complément dans l'alimentation animale. Et tous les agriculteurs consultés par cette personne ont refusé cette matière parce que un peu tatillonne, parce que ça sort un petit peu des sentiers battus. Et j'ai pu mettre en relation finalement une entreprise, pour ne pas la citer, la Dioise, pire locale, la Dioise, qui a des drèches, c'est-à-dire que c'est les sous-produits de brasseurs, à savoir ce sont les céréales maltées qui servent à confectionner la bière, qui sont aujourd'hui des déchets pour ce brasseur, mais qui sont non plus des déchets pour l'agriculteur ou l'éleveur, c'est une ressource alimentaire, un complément pour l'alimentation animale, et ces drèches, donc ces céréales, peuvent être utilisées notamment pour l'alimentation bovine, avec c'est une petite part dans la ration alimentaire, mais il n'empêche que David Toussaint, habitant et agriculteur de la vallée de Quin, est très intéressé pour récupérer ces drèches. Donc voilà, UMIC, par le biais de ce petit exemple, UMIC peut aussi être une interface entre l'offre et la demande. Voilà, un agriculteur a besoin de matière organique pour ses champs, pour ses animaux. Et ben voilà, c'est un des exemples que UMIC peut proposer, et peut proposer sur le Diwa et sur la vallée de la Drôme.
Alors c'est un peu pour ça que tu nous parlais tout à l'heure de toilettes sèches, non ? De retraitement des matières fécales récoltées peut-être ?
Oui, alors là, c'est pas encore un projet qui est effectif. On est en pleine réflexion avec ceci. Et d'ailleurs, je voudrais citer et remercier les gandousiers qui se trouvent dans le Haut-Diwa, qui m'ont beaucoup apporté. Et la réflexion se fait bien entendu avec eux. Les toilettes sèches, en fin de compte, c'est une évidence même. Mais après, tout le monde n'est pas forcément prêt à aller sur cette thématique. Dans le cas concret, lorsqu'on a des toilettes avec une chasse d'eau, on gaspille quand même beaucoup d'eau pour faire évacuer nos excréments. Alors que ça soit l'urine ou les déjections solides, on a toujours besoin de tirer la chasse d'eau. Et le principe des toilettes sèches, alors il y a deux principes évidents à distinguer. Ce qu'on appelle les toilettes sèches, c'est souvent le seau avec les copeaux et la sciure. Donc ça, c'est l'aspect le plus basique parmi les toilettes sèches. Mais il y a également des toilettes qu'on appelle aussi à séparation, qui permettent de séparer les excréments solides de l'urine. Alors c'est un sujet tabou, c'est un sujet qui n'est pas forcément évident à entendre pour tout le monde. On en rigole un petit peu, ça fait penser un petit peu à la cour de récréation pipi caca, etc. Excusez-moi pour cet aparté, mais en tout cas c'est là, c'est une réalité. Tout le monde n'est pas forcément prêt à en parler. Et puis donc je parlais de toilettes à séparation, mais ça concerne un principe de ce qu'on appelle techniquement des TLB, des toilettes à litière biométrisées, où on sépare volontairement l'urine des matières fécales. Les matières fécales sont séchées, stockées et compostées, et l'urine est stockée à part dans des fûts qui permettent, après une maturation de quelques mois, de valoriser cet azote organique et de pouvoir l'épandre par la suite dans les champs, tout comme les matières fécales après une durée de maturation par le compostage.
J'avais entendu dire que ça pouvait être dangereux, qu'il pouvait y avoir des staphylos dans les matières fécales.
D'où l'intérêt du compostage. Voilà, le compostage déchets organiques issus de la cuisine va être totalement différent du compostage des déchets issus des toilettes. C'est-à-dire qu'on va insister sur un processus de compostage beaucoup plus long, ce qui permettra finalement à la dégradation de la matière par les différents micro-organismes bénéfiques, qui ne sont pas du tout pathogènes pour nous, êtres humains ou animaux, d'être supprimés, d'être éradiqués finalement de ce compost. Et bien entendu, ce compost ne sera pas utilisé dans un jardin pour l'alimentation humaine. On va utiliser ce compost soit dans les champs, Donc il n'y aura pas de contact direct avec un légume racine, hein, j'entends, ou éventuellement au pied des arbres lorsqu'on est à la maison. On va toujours insister sur le principe où on va faire une séparation des deux composts pour ne pas mélanger les risques pathogènes.
Tout à l'heure, tu nous as dit, et je suis fort alléché par cette perspective, que tu allais nous donner quelques recettes pour faire un bon compost. Et là, je découvre en plus qu'il n'y a pas qu'un compost. Il y a plusieurs composts selon, je suppose, ce qu'on met dedans.
Effectivement, il y a différents processus de compostage. Tout dépend finalement de l'origine de la matière. Lorsqu'on est sur une matière d'origine végétale, que ce soit un déchet vert ou issu de la cuisine, que ce soit cru ou cuit, hein, les aliments, les restes de déchets alimentaires, il y a la première possibilité de faire un compost basique et toujours avec la même recette. C'est-à-dire qu'il faut, en plus des déchets organiques très riches en eau, qui sont en grande majorité très riches en azote, il faudra apporter un complément carboné, riche en carbone, pour avoir un bon ratio, ce qu'on appelle en agronomie C sur N, hein, un rapport entre le carbone et l'azote. Et ce ratio doit être maintenu en apportant finalement un broyat de bois. Alors on va apporter une matière carbonée, qu'on va appeler aussi matière brune ou matière sèche. On utilisera principalement du broyat de bois. Pourquoi ? Parce que c'est un matériau qui est très facile à obtenir, tout simplement en broyant ses déchets verts, hein, par exemple les branches de la haie d'arbres feuillus, l'élagage des arbres, le fait d'avoir taillé un petit peu ses framboisiers, etc., et même les herbes sèches. Tout ceci broyé ou découpé en petits morceaux, à la tondeuse par exemple, ou alors avec un broyeur, permet d'obtenir un broyat qui va être sec et qui va compenser finalement l'excès d'humidité et surtout apporter de l'air. Et ça, c'est le troisième ingrédient. C'est-à-dire que pour que le processus de compostage se fasse, il faut que ça soit une dégradation par des micro-organismes qui vivent en milieu aérobie. L'aérobie, hein, c'est tout simplement en présence d'oxygène. L'oxygène est important finalement pour la dégradation de cette matière par ces micro-organismes. Donc ça, c'était le troisième élément. Et le quatrième élément, c'est l'eau. C'est-à-dire que si vous avez un compost qui est trop sec, le processus de compostage ne se met pas en route. Je vais prendre pour exemple, lorsque vous allez en forêt, une forêt de feuillus, notamment dans le Vercors, lorsqu'on va dans les forêts de hêtres, il y a beaucoup de feuilles qui sont sur le sol à l'automne. Et même, on peut retrouver des feuilles qui ne sont pas décomposées depuis plusieurs années parce que le milieu est trop sec, trop exposé par exemple au vent ou trop exposé au soleil, et ce milieu n'est pas propice finalement à la dégradation de la matière. Donc il y a un équilibre à obtenir entre l'azote, le carbone, l'air et l'eau. Et tout ceci nous fait penser un petit peu à une petite recette de cuisine dans le 4 quarts. Et si un élément est manquant, on n'obtient pas un bon gâteau.
Alors Olivier, je pense qu'on pourrait faire une émission spéciale, même plusieurs, sur comment faire un compost. Et je comprends mieux maintenant pourquoi tu disais qu'éventuellement Humic pouvait devenir utile pour donner des conseils à l'un ou à l'autre. Donc on va peut-être pas s'apesantir pour donner tous les conseils, sinon il faudrait faire peut-être une série d'émissions et on n'en est pas encore là. Donc je te propose d'embrayer maintenant sur les projets concrets d'Humic que tu comptes mener à bien assez bientôt.
Voilà, donc il y a différents projets qui sont en cours, d'autres je dirais qu'ils restent un petit peu entre parenthèses, faute d'énergie et faute aussi de financement, parce que voilà, c'est ça aussi, on a toujours besoin de financement pour lancer nos projets. À l'heure actuelle, je vais faire une table ronde avec la CCD, la communauté de communes du Diois, table ronde, conférence, débat autour du compostage. Donc vous avez pu entendre depuis le début de cette émission qu'il y a une multitude de choses qui est proche finalement du compost et de la valorisation de la matière organique. Et c'est par le biais de cette conférence que je vais pouvoir aborder le sujet pendant les rencontres de l'écologie au quotidien. Donc le 30 janvier à 15h, cette conférence aura lieu au Meros Pub, la salle du premier étage du Meros Pub, où des petits films, des petits documentaires permettront d'aborder différents sujets liés au compostage et de parler un petit peu qu'est-ce que l'on peut mettre en œuvre finalement sur le territoire en matière de compostage et de valorisation de la matière organique. Donc ça, c'est un premier point. Donc j'invite chaque citoyen, chaque agriculteur, chaque élu associatif ou de collectivité à venir lors de cette table ronde pour exposer ses expériences, ou aussi ses attentes, voire même peut-être ses échecs. C'est toujours très intéressant de pouvoir parler de toutes ces expériences et de toutes ces initiatives qui ont lieu autour de chez soi pour que tout le monde puisse en profiter. Et UMIC s'inscrit véritablement dans une plateforme d'échange et comme un observatoire également d'initiatives locales liées à la valorisation de la matière organique. Donc voilà, ça c'est le premier point qui est le plus proche en termes de temps. L'autre point, et je voudrais remercier en premier lieu la région Rhône-Alpes qui est partenaire de ce beau projet qui va démarrer ce printemps, avec la CCD également, la communauté de communes du Diois qui intervient également. Et surtout l'association Diois Les Amis de Circé, spécialisée dans l'accompagnement de projets liés à l'EEDD, l'éducation à l'environnement pour un développement durable. Je vais mettre en place finalement un projet pilote concernant les hébergeurs et notamment les aires de camping. Alors voilà, moi j'étais parti d'une petite réflexion il y a maintenant un an et demi lorsque j'ai monté ce dossier, cet appel à projet Rhône-Alpin éco-citoyen avec la région Rhône-Alpes. Imaginons, je suis citadin, je pratique le compostage à la maison, je suis en appartement, je fais... admettons du compostage en pied d'immeuble parce qu'un bac composteur a été installé au pied de mon immeuble, ou alors je fais éventuellement du lombricompostage dans mon appartement. J'ai déjà une initiative éco-citoyenne responsable et je veux aller dans le Diois ou sur n'importe quel autre lieu de vacances pour me reposer pendant 2-3 semaines et profiter finalement du cadre magnifique du Diois. Et ben je m'aperçois que mes habitudes de compostage que j'avais en appartement, je ne peux plus les avoir parce qu'il n'y a pas de bac composteur dans l'aire de camping. Alors là, qu'est-ce que je fais? Avec un grand regret, je jette tout à la poubelle. Et ça, je m'étais dit, en imaginant ce scénario-là, et qui est véridique, hein, je l'ai rencontré parce que cet été, je me suis baladé dans différents campings, cette idée-là, ce projet-là, je me dis, ça ne devrait plus se faire. Moi, j'ai une compétence, j'ai toute l'expérience nécessaire pour mettre en place ce genre de projet. Et je vais dire, j'ai la région qui me propose de mettre en place des projets pilotes. Je propose finalement dans le Diois à mettre en place des bacs composteurs, de l'animation et de former les personnels de ces campings et de les suivre pendant toute la saison touristique pour que cette initiative fonctionne. Parce que voilà, il y a une petite recette hein, et une attention à avoir pour le processus de compostage. Je dirais entre guillemets, on n'a pas le droit à l'erreur parce que les images qui sont forcément véhiculées et qui retiennent beaucoup de personnes dans la mise en place d'un compostage, c'est que c'est trop compliqué, c'est trop long à mettre en place, ça risque d'attirer les mouches, ça risque de puer. Hein, c'est vraiment les termes qui sont régulièrement employés. Et effectivement, si on laisse partir le compost tout seul, sans attention, effectivement, il peut y avoir ce genre de nuisances, voire même des jus qui peuvent couler s'il y a beaucoup d'apports azotés et très riches en eau. Donc voilà, le fait d'apporter un conseil, d'accompagner sur ce projet, de créer de l'animation et de la formation, et finalement, au bout du compte, de donner tous les moyens pour que ce projet réussisse, ça a fortement intéressé la région, ça intéresse la CCD. Et je rappelle que ce projet est porté conjointement par les Amis de Circé et par UMIC, deux associations diwaises. Et voilà, c'est un projet que je voulais citer en exemple et qui sera mis en exergue dès le printemps 2013.
Alors, dans les autres pistes d'action dont tu as un tantinet parlé tout à l'heure, tu as parlé de la méthanisation. Et effectivement, c'est une méthode dont on parle relativement peu. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il est possible ou non de méthaniser des matières organiques. Néanmoins, avec toute la matière organique qui nous entoure, je crois qu'on devrait peut-être effectivement faire plus d'efforts. Alors, est-ce que tu pourrais, en quelques phrases, nous rappeler qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'on prenne un peu plus au sérieux ce process ?
Oui, alors la méthanisation, c'est une manière de valoriser la matière organique par putréfaction. Je vous parlais tout à l'heure des tourbières et des rizières. En fait, en absence d'oxygène, certains micro-organismes se développent et vont digérer une partie de la matière et dégager du CH4, du méthane. Le méthane, pour le rappeler, hein, c'est un élément essentiel dans ce qu'on a en ville, hein, le gaz de ville, qui permet d'être une ressource énergétique. Alors, il n'empêche qu'il y a beaucoup de projets qui ont émergé en France, en Europe, à travers le monde, sur la méthanisation. Parfois, on peut avoir des grosses installations qui peuvent être, j'aime bien ce petit parallèle, mais des usines à gaz. Des gros projets qui sont parfois très contraignants, très coûteux et qui ne sont pas toujours au point malheureusement, mais qui ont tendance maintenant à être de plus en plus au point. Et il y a des petits projets qui peuvent être à l'échelle de l'agriculteur, hein, tout simplement en méthanisant les différents purins et lisiers organiques d'un élevage. Il est possible de méthaniser des matières organiques issues de l'alimentaire. Il n'empêche que ça demande beaucoup plus d'efforts en montage de dossiers, ça demande un petit peu plus de financement, voire même beaucoup plus de financement, et il faut aussi sélectionner le type de déchets que l'on a. Donc la source même, l'origine même des déchets est très importante. Et de visu comme ça, je pense que le Dîmois n'est peut-être pas à même d'être un suffisant producteur de matière organique, étant donné qu'on est un territoire qui est extrêmement étendu, avec une population éparse sur tout ce territoire. Ça supposerait peut-être un coût énergétique en transport trop important par rapport aux bénéfices réels. Mais il n'empêche que sur des agglomérations ou sur des petites villes, voire à côté des élevages, voire avec des agriculteurs, il est tout à fait envisageable de mener ce genre d'action.
Oui, enfin, je voudrais juste citer une petite anecdote que moi j'avais vécue en faisant un trek au Népal autour des quatre Annapurna. Et il y avait tellement de touristes qui passaient, c'était il y a une vingtaine d'années, il y avait quand même déjà tellement de touristes qui passaient qu'il y avait une pression sur la forêt parce qu'ils faisaient toutes les guest houses faisaient leur nourriture avec du bois qu'ils allaient couper eux-mêmes autour des villages et donc ils faisaient à manger aux touristes qui passaient. Donc le bois reculait, il y avait bientôt plus de bois. Et c'est un programme qui avait été financé, je pense bien, par le FMI ou enfin une grande instance internationale de petites cuves de méthanisation à l'échelle, mais même carrément de la guest house. Alors, ils avaient une toute petite cuve à méthanisation. Ils mettaient peut-être leurs déchets alimentaires. Je ne sais pas ce qu'ils mettaient dedans. Mais en tout cas, ils chauffaient leur tambouille avec ces déchets. Et moi, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Et depuis, ça fait 15 ans, on entend relativement peu parler de la méthanisation quand même.
Oui, c'est vrai, on en parle très très peu. Il n'empêche que on est dans un niveau de vie et de confort aujourd'hui en France et en Europe qui s'intéresse très très peu aux petits projets visant à une forme d'autonomie ou de recyclage au maximum de ce que l'on a autour de soi, de réutilisation ou de réemploi. La méthanisation de la matière organique n'est pas très compliquée. Finalement, il faut mettre la matière organique dans un milieu anaérobie, en absence d'oxygène, dire une cuve tout simplement, et on laisse se décomposer cette matière et on va avoir un dégagement de méthane. Sauf que ce méthane, après, il faut aussi l'épurer et le pressuriser pour obtenir finalement une utilisation dans nos gazinières classiques. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une bouteille de 13 kg d'une manière générale à la maison et on sait qu'on a une pression dedans qui est suffisante et il n'y a pas de couac entre guillemets par rapport à cette installation. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que par rapport à notre niveau de vie, le processus de méthanisation tel qu'il est pratiqué, je dirais dans les pays comme en Inde, au Népal ou autres, puisse être réellement dupliqué à grande échelle, on va dire. Hein. Je veux dire, à grande échelle, c'est pour une population. Ça peut être fait dans une buanderie, par exemple, pour un complément de gaz, si on veut faire ses confitures et ce genre de choses éventuellement. Mais à mon sens, il faut rester peut-être, il faut rester dans des priorités et ce genre de petites installations peuvent être faites pour ceux qui le souhaitent. Mais de là à chercher des financements, c'est pas forcément le projet le premier qui pourrait intéresser finalement notre société.
D'un autre côté, ça fait partie de tes pistes de réflexion.
Tout à fait. Ah, tout à fait, oui, alors voilà, je mène plusieurs choses de front. Le compostage, c'est le gros morceau, parce que c'est le sujet sur lequel on peut intervenir très facilement, en très peu de temps et avec assez peu de moyens. Mais il n'empêche que voilà, les autres pistes qui sont liées à la méthanisation, notamment, et d'autres sujets, viendront, je pense, par la suite, mais pas dans la priorité en tout cas.
Alors, Olivier, tu as dit tout à l'heure que tu étais en réflexion avec un certain nombre de partenaires institutionnels, je pense à la région, je pense à la CCD. Est-ce que, suite à cette interview ou à tes propres efforts de communication, des particuliers souhaitaient obtenir des conseils de la part d'UMIC ? Serait-ce possible ?
Alors oui, tout à fait. Alors UMIC, je le rappelle, c'est bien une association de 1901, il n'y a pas de salariés à l'heure actuelle, les finances ne sont pas suffisantes pour pouvoir embaucher, même un temps partiel. Il n'empêche que d'un point de vue bénévole, je peux organiser des ateliers pour les particuliers, pour des groupes de particuliers, donc constituer des ateliers. Je suis en recherche de partenaires financiers pour monter finalement une possibilité de financement de ces ateliers d'animation, formation, sensibilisation auprès du grand public. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, lorsque j'étais à Trièves Compostage, une association dans le Trièves Sud-Isère, le conseil général de l'Isère était le principal interlocuteur et partenaire financier pour toutes les actions de ces 4 salariés de l'association. Donc voilà, ils ont pu diffuser une multitude de conseils, d'ateliers, de formations pour les particuliers, notamment une formation aussi de bénévoles qu'on appelle les guides composteurs. Moi-même, je suis maître composteur, c'est le niveau juste au-dessus, sans vouloir me vanter, parce que j'étais aussi chargé de projet. Donc voilà, moi je suis en attente de retour de la part de toutes ces institutions, que ce soit la CCD, que ce soit la région, mais il y a aussi le département et peut-être même Biovallée, pour mettre en place finalement des ateliers de communication, d'information, un échange de savoir-faire pour les bonnes pratiques de compostage pour les particuliers, mais aussi, et là on peut aller beaucoup plus loin, pour les associations, pour les restaurants, parce que d'installer aussi une filière de compostage sur le Diwa, voire la vallée de la Drôme, pour moi, c'est l'un de mes grands challenges. C'est d'être l'interface entre le producteur de matière organique qui n'est pas encore valorisé avec celui qui en demande. Et je pense notamment aux agriculteurs qui sont en demande de matière organique, qu'ils soient en bio ou pas en bio d'ailleurs. La règle est la même, ils ont besoin de matière organique pour la fertilité des sols. Donc voilà, oui, effectivement, pour répondre à ta question, Louis, je peux organiser des ateliers pour les particuliers et il suffit de me contacter auprès de l'association et notamment par internet. Vous pouvez me joindre sur umic.asso, umic.a2so@gmail.com. Et là, en m'envoyant un petit message sur Internet, vous pourrez donc me questionner et me demander s'il y a des ateliers qui sont envisageables. Donc laissez-moi vos coordonnées, je prendrai contact avec vous pour organiser un atelier en espérant être une dizaine, une quinzaine lors de ces ateliers, pour optimiser aussi mon intervention. Et aussi montrer qu'il y a une attente locale en matière de compostage. La réaction, la réactivité, la motivation de chaque habitant est très importante. Et c'est par cette émission aussi que je fais un appel à chaque citoyen du Diwa et voire même au-delà, puisque Radio Diwa peut être écouté sur Internet, pour participer tout simplement un échange d'expériences, voilà, de façon à mutualiser un petit peu nos efforts pour faire aussi avancer notre territoire dans un sens meilleur.
Ça n'existe pas pour l'instant une association qui travaille sur ce genre de considération en ce moment ?
Alors il y a les jardins partagés qui abordent le sujet, mais il y a des petites associations de quartier, je pense à Saillant, je pense à Cré, avec la MJC Nini Chaise, avec Topinambour, avec Mace. Proprement sur la valorisation de toutes les matières organiques, il n'y a pas.
Alors rappelons un dernier petit fait, c'est que en valorisant ces déchets organiques plutôt que de les mettre dans la poubelle, on peut diminuer le tonnage de ces déchets par 2, voire plus, ce qui ferait ultimement pour le citoyen une baisse de sa facture concernant retraitement des déchets ménagers quand même.
Oui, tout à fait.
On a peut-être tout intérêt à payer une association comme UMIC qui pourrait aider à diminuer notre facture.
Alors voilà, ça c'est un point qui est très intéressant, merci Louis de m'avoir posé la question. Quand on prend, je dirais, la poubelle d'une personne lambda, une personne du Diwa, admettons, où on pourrait supposer, et là on est vraiment dans des suppositions, je dirais, et c'est très difficile d'obtenir des chiffres en matière de compostage, autant pour les ordures ménagères, le tri sélectif, on arrive à avoir des chiffres, mais en matière de compostage c'est extrêmement complexe et on comprendra pourquoi. On pourrait se dire, mais en fait tous les Diwa font du compost à la maison. Mais ceux qui sont en centre-ville de Die, par exemple, ou en maison de village à Luc, Châtillon, ou autre village sans jardin ou en appartement, bah, que font-ils? Est-ce que réellement ils font du compost? Est-ce qu'ils trient réellement tous leurs déchets? Là, c'est une question, il y a beaucoup d'interrogations. On pourrait se dire que oui, on pourrait se dire que non. Si on se dit que non, ils n'accèdent pas au compost ou n'ont pas le comportement, parce qu'on peut très bien aussi habiter un territoire magnifique, un environnement merveilleux, mais on peut très bien ne pas avoir de sensibilité au tri des déchets et au final au compostage. Alors qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? Eh bien voilà, donc c'est la grande problématique qu'on peut retrouver aussi dans les grandes villes, mais je pense que le Diwa n'est pas exempt de tout ça. On est dans une société qui a aussi promu énormément la surconsommation, où le jetable est très facile. Et d'un point de vue sociologique, c'est très intéressant parce que le comportement évolue en fonction de ce que l'on peut avoir autour de soi. Et je pense notamment au changement de statut de l'éplucheur de la carotte. Je vais prendre ce petit exemple-là. Voilà, on veut se faire un bon petit repas, des carottes râpées ou un bœuf bourguignon ou je ne sais quelle autre préparation, un curry de légumes par exemple. L'éplucheur de carotte change de statut à partir du moment où la pelure a quitté la carotte. Ça, c'est étonnant. C'est étonnant parce que on constate que finalement, cette épluchure devient sale, alors qu'on avait pris la carotte quelques secondes avant. Et pourquoi elle devient sale? Parce qu'elle devient déchet. Et c'est la notion même de déchet. Moi, je n'ai pas employé aujourd'hui ou très peu le terme déchet. Pour moi, c'est un terme qui est plutôt dévalorisant, négatif. J'emploierais plutôt le terme de ressource. Un déchet, c'est quoi? Un déchet, c'est tout simplement quelque chose pour une personne qui n'a plus du tout d'utilisation. Il n'y a plus du tout de possibilité de valoriser cette matière, donc on l'appelle déchet et on s'en débarrasse. Autrefois, rien n'était déchet, tout était ressource. Quand je dis autrefois, c'était, il ne faut pas chercher très loin, hein, je dirais une trentaine ou une quarantaine d'années, le compostage était pratiqué partout. La valorisation de toute matière, et je ne parle pas que de la matière organique, mais on valorisait toute matière, et je dirais que le déchet de l'un devient la ressource de l'autre. Et je prendrai l'exemple du mouton avec sa laine. On a tous des vêtements, on a tous peut-être de la laine sur soi, alors maintenant c'est peut-être aussi des matières synthétiques, ou un coton qui vient de l'autre bout du monde, mais quand on repense un petit peu à la laine, qui était une matière première pour la confection des textiles, et des textiles chauds notamment, la laine était lavée et après elle était cardée, tissée et on confectionnait par la suite des pulls et différents vêtements. Aujourd'hui, eh ben, on importe beaucoup de laine parce qu'aujourd'hui on considère que ce déchet, ce sous-produit qui était valorisé encore il y a quelques dizaines d'années en arrière, aujourd'hui ben, c'est plus rentable. Donc il y a une notion aussi économique de tout ça. Et ce qui m'amène également à dire que cette ressource, lorsqu'elle est gérée localement, elle permet de faire beaucoup d'économies. Et je ne parle pas que d'économie financière, qui est quand même le gros morceau, mais en tout cas une économie d'énergie, parce qu'il y a beaucoup moins de transport. Et on fait aussi des économies en termes de travaux publics, parce qu'on n'a plus de trous à creuser pour faire des décharges. Hein, si on nous annonçait aujourd'hui qu'une décharge devait se faire dans le Diwa pour être le plus local possible, il s'entend bien que chacun dirait non, parce que moi j'en veux pas à côté de chez moi. Mais alors, dans ces cas-là, comment gérer nos déchets? Donc le meilleur moyen peut-être est de limiter les déchets, de les réduire à la source, et de considérer ces produits comme une ressource, et de les gérer localement. Voilà, ça c'est un des points sur lequel je serai tout aussi dynamique à vous proposer une prolongation de cette discussion lors de la table ronde et conférence qui a lieu, je le répète, le 30 janvier 2013 à la salle du Méros lors des rencontres de l'écologie au quotidien.
Eh bien, très bien Olivier, je te remercie d'être venu et de nous avoir confié ces informations. Sachant qu'effectivement, indéniablement, du boulot, il y en a pour améliorer le retraitement des matières organiques et non pas des déchets. Hein.
Oui, effectivement, Louis. Alors, pour finir un petit peu, je citais Trièves Compostage, donc qui se situe dans une association qui se situe dans le Sud-Isère. Il y a 4 salariés à l'heure actuelle qui ne traitent que de l'aspect formation, animation, accompagnement de projet pour les déchets alimentaires.
Du Trièves seulement.
Pour le Trièves, Matézine, on va dire Sud-Isère, et puis quelques petits territoires très très proches. Mais il n'empêche que vous voyez, 4 salariés. Pour un territoire relativement petit, ça veut dire que si on développe toutes les thématiques que je vous ai annoncées par rapport à la valorisation de la matière organique, la valorisation des matières organiques peut créer des emplois locaux.
Et empêcher des dépenses inutiles comme on l'évoquait tout à l'heure. Bien Olivier, hein, comme vous avez compris, chers auditeurs, on ne va pas épuiser le sujet aujourd'hui même. Donc Olivier, à plusieurs reprises, vous a donné rendez-vous lors des prochaines rencontres de l'écologie au quotidien au Méros, le 30 janvier à 15h. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir Olivier.
Merci Louis, au revoir.
Interview. 1 Terre.
Okay, the bird.
L'interview du jour.